plan de relance, à qui que ce soit, parce que de toute façon, tout l'exécutif gère l'urgence. Une fois que l'urgence sera derrière nous, c'est-à-dire qu'on aura commencé à contenir l'épidémie, à ce moment-là, les plans de relance qui seront activés seront des plans de relance, à mon avis, très exactement à l'identique, sauf à ce que les gens qui sont l'objet des plans de relance aient eux-mêmes des demandes pour se relancer de façon un peu plus verte et qu'ils y aient pensé à l'avance. Et dans un troisième temps seulement, ce qui est en train d'être éventuellement pensé aujourd'hui sera discutable au moment où la relance elle-même s'essoufflera. Parce qu'il est vraisemblable qu'on ait un problème avec la relance elle-même. Alors c'est là que je vais venir à une autre question. Donc je vais faire un petit aller-retour sur la question pétrole et CO2, parce que j'ai vu que la question avait été posée également. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le pétrole? Une des explications que j'ai entendues, c'est que nous sommes déjà en fait dans l'après-pic et qu'on est déjà en train de vivre une situation de déflation et que cette situation a été engendrée par le choc pétrolier qui s'est étalé de 2008 à 2014 et qui lui-même a été provoqué par le pic de production du pétrole conventionnel. Alors je le refais dans l'ordre. 2008, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, le pétrole conventionnel passe par un pic. Du coup, on a ce qu'il est coutume d'appeler maintenant la crise des subprimes, mais en fait, qui en fait est une crise énergétique à la base. Hein. D'abord, le pétrole commence à se faire un peu plus rare, ou plus exactement, il n'augmente plus. Le PIB décélère et le système financier américain se détricote. Là-dedans, le prix du pétrole remonte très fortement. Du coup, les investissements dans l'amont pétrolier triplent en l'espace de quelques années. On racle un peu mieux les fonds de tiroir et surtout, on se met à lancer la production de shale oil. Mais laquelle est beaucoup plus difficile techniquement et beaucoup moins rentable économiquement que la production de pétrole conventionnelle qui, elle, est en train de décliner. Et le système, en novembre 2018, arrive à un pic depuis lequel la production décline. Et ce pic engendre lui-même un début de difficulté économique. On voyait bien, la croissance était en train de baisser partout, la production industrielle de l'Allemagne commençait à souffrir, etc. Et ce pic engendre un début de diminution du prix du pétrole. Et à ce moment, le système s'emballe. Le début de diminution du prix du pétrole met les foreurs de shale oil en difficulté, supprime encore plus les investissements. Et là-dessus arrive le coronavirus, qui est le coup de grâce en faisant tomber le prix du baril à un niveau qui est tellement bas que les investissements vont continuer à baisser. Alors là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que comme les investissements dans le shale oil, qui était le seul réservoir de croissance avec les sables bitumineux, baissent, du coup la production de shale oil va s'arrêter de croître, voire se mettre à baisser. Dans les pronostics qu'on commence à voir passer ici et là, il y avait un article, je ne sais plus, dans le FT, je crois, aujourd'hui, disant que 2020 pourrait très bien, à 30 ou $40 le baril, être l'année du pic de production du shale oil. À ce moment, la production mondiale de pétrole se met à baisser. Et comme l'activité économique suit au premier ordre, ou plus exactement ne peut pas être plus importante, c'est plutôt ça qu'il faut voir, que la production de pétrole, c'est-à-dire il peut y avoir autre chose qui l'entame, par exemple le coronavirus, mais en tout cas, sa borne supérieure, son enveloppe, c'est la quantité de pétrole disponible. Et comme cette quantité baisse, ça veut dire que les plans de reprise ne donneront pas les effets escomptés. C'est là que je voulais en venir. Dit autrement, à un moment, on retombe sur un défaut de pétrole pour que les plans de relance s'appliquent à plein. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va injecter plein d'argent. C'est un peu comme le quantitative easing après 2008. On va injecter plein d'argent et la relance économique ne suivra pas. Donc, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que peut-être il commencera à y avoir une opportunité pour que les oreilles s'ouvrent et qu'on essaye de faire différemment. Alors, ce différemment, il demande comment dire, il demande des mesures qui là aussi pour le moment sont très très peu disponibles sur la table. Parce que en gros, ça revient à faire face à des problèmes qui augmentent avec des moyens qui baissent. Or, personne aujourd'hui, y compris chez les écologistes, c'est ça qui est très drôle, personne aujourd'hui n'a ce type de cahier des charges en tête. Si on prend nos amis de Négawatt, par exemple, la contrepartie économique de leur scénario, c'est la croissance. C'est-à-dire que quand ils ont fait le volet économique de leur scénario, ça se fait dans un monde en croissance. La SNBC française, qui prévoit une très forte baisse de la consommation d'énergie fossile, enfin, ou exactement, qui scénarise, pas prévoit, une très forte baisse de la consommation d'énergie fossile, eh bien, elle se fait dans le cadre d'un monde en croissance. Le scénario 2 degrés de l'AIE, qui est aussi un scénario qui est censé permettre d'avoir une économie qui se décarbone, se fait dans un monde en décroissance. En croissance, pardon. Quel horrible lapsus. Le Green Deal européen se pense également dans un monde en croissance. Donc aujourd'hui, sur la table à dessin, il n'y a pas de plan pour gérer un monde avec moins de moyens. Dit autrement, les gens qui ont pensé des mesures activables dans un monde dans lequel globalement les moyens baissent, et je parle bien des moyens physiques, dont les moyens économiques ne sont qu'une représentation, mais dans un monde dans lequel les moyens physiques baissent, pour le moment, les gens qui ont tenté d'y réfléchir sont comment dire, rares. Alors, au Shift Project, c'est ça qu'on essaye de faire, soit dit en passant. On a déjà essayé de réfléchir en ce sens, et on va, à la faveur de ce qui est en train de nous arriver, essayer d'accoucher d'une espèce de crash programme ou de plan qu'on pourrait proposer, dont on ne pense pas qu'il sera encore une fois audible dans les mois qui viennent. Mais par contre, on espère vraiment que dans l'année, n'importe quand entre maintenant et la prochaine élection présidentielle, si la situation ne dégénère pas trop, on aura une fenêtre de tir pour le présenter parce que, encore une fois, je pense que malheureusement, la réalité, c'est que quand il y aura des plans de relance, ces plans de relance vont buter sur la baisse de la production de pétrole. Alors, accessoirement, au moment où il y aura des plans de relance et une production de pétrole en baisse, la logique voudrait qu'il y ait un nouveau choc pétrolier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le prix du pétrole remonte très rapidement. Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le prix du pétrole est devenu maintenant extrêmement volatile, donc il est capable de fluctuer à la hausse comme à la baisse très très rapidement. Et donc, je ne serais pas plus étonné que ça si après être à 20 dollars le baril, un an après ou 2 ans après, il se baladait à 100 dollars le baril. Je pense que tout ça fait partie des choses possibles. Donc, je ne suis pas du tout en train de faire une prévision, je suis juste en train de dire que c'est très très difficile aujourd'hui de faire des pronostics, et plus que jamais cette blague de pétrolier me semble valable, qui est vous pouvez donner un prix et vous pouvez donner une date, mais surtout jamais les deux en même temps. Voilà, donc le pétrole va être un facteur limitant de la reprise. Alors après, est-ce que ça veut dire que le pétrole de schiste américain va voir sa bulle éclater? Ça dépend de ce qu'on appelle une bulle. Ce qui me paraît clair, c'est que le pétrole est tellement stratégique pour les États-Unis que je pense que les États-Unis vont soutenir leurs pétroliers par tous les moyens possibles, y compris en demandant aux actionnaires et aux prêteurs de s'asseoir sur la montagne de dettes que les pétroliers ont contractées. C'est-à-dire que le scénario le plus probable pour moi, c'est pas que les foreurs de pétrole de schiste font faillite et que du coup il n'y a plus de pétrole qui sort. Je pense que s'il y a un problème d'approvisionnement, les foreurs font faillite et ils repartent comme en 40 derrière, tout simplement parce que vous savez qu'aux États-Unis, comme en France, il y a une loi sur les redressements judiciaires, le Chapter 11 aux États-Unis, qui permet de redémarrer l'activité à l'abri de ses créanciers. Donc je pense que la production elle-même, elle sera limitée aux États-Unis beaucoup plus par des facteurs géologiques et techniques que par des facteurs financiers. Le shale oil n'a pas gagné d'argent en cash flow depuis ses origines, ça ne l'empêche pas d'avoir continué à produire de plus en plus. Je ne suis pas complètement convaincu qu'il va s'arrêter de produire tout simplement parce qu'il a des difficultés économiques aujourd'hui et qu'il ne peut pas rembourser ses créanciers. Je pense que du point de vue des États-Unis, c'est pas complètement un sujet. Donc, est-ce que la bulle va éclater au sens où il va y avoir de la dette pourrie qui ne sera pas remboursée? Ça, très vraisemblablement. Est-ce que ça va empêcher les producteurs de shale oil de produire? C'est pas sûr. Est-ce que ça va avoir un effet systémique sur l'économie? Je ne crois pas, parce que ça représente un paquet de dettes, mais ça représente un beaucoup plus petit paquet de dettes que la dette des États. Donc, je pense que ça. Et c'est beaucoup plus petit que le crédit immobilier qui a mis le feu aux poudres en 2008. Donc, je ne suis pas complètement sûr que ce soit un risque systémique. Par contre, je le redis, ce que je crois, c'est que la baisse des investissements, d'une manière générale dans le monde, hein, pas qu'aux États-Unis, avec un pétrole à 20 ou 30 dollars, va avoir un effet sur la production. On peut rajouter à ça le fait que un des producteurs majeurs aujourd'hui, qui est la Russie, avait annoncé avant l'épisode coronavirus et avant l'épisode pétrole à 20 dollars qu'ils escomptaient passer leur pic en 2021. Alors, personne ne saura jamais si c'est du bluff, enfin, on le saura après coup, comme d'habitude. Mais s'il y a un début de réalité à ça, ça veut dire qu'il faut effectivement s'attendre dans les années qui viennent à des soubresauts très, très importants. Et je le redis, au fait que le plan de relance en business as usual va se heurter de toute façon au mur du pétrole. Et que c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt avec des propositions concrètes pour ne pas que la population soit laissée dans un désarroi qui alors là sera extrêmement élevé. Un autre effet que ça va avoir, il y a quelqu'un qui me dit c'est pas le coronavirus qui fait tomber le prix du baril, c'est une conjonction qui fait tomber le prix du baril. C'est-à-dire c'est à la fois le coronavirus, le fait que on était déjà en économie qui commençait à se déprimer, et le fait effectivement que les Russes et les Saoudiens ont décidé de ne pas baisser les vannes pour de ne pas fermer les vannes pour autant. C'est une conjonction de l'ensemble. Donc je le disais, ce qui va être intéressant, c'est de concevoir des plans de relance qui peuvent passer la rampe. Alors, une des choses qui pourrait très bien se produire, soit dit en passant, dans ce contexte-là, c'est que le soutien aux énergies renouvelables électriques, qui aujourd'hui consomment des grandes quantités de capitaux, et qui s'occupent d'un problème, notamment en France, qui n'était pas urgent, fasse l'objet d'une réorientation rapide. Voilà, ça c'est quelque chose qui... On voyait déjà les Allemands qui étaient en train de caler. L'année dernière, ils ont installé beaucoup moins d'éolien dans l'année que ce qu'ils faisaient les années précédentes. Alors par contre, ils ont installé pas mal de solaire, mais il n'est pas du tout exclu que l'un des effets collatéraux, j'ai envie de dire, de cette affaire-là, c'est que la perfusion d'argent public qui est nécessaire pour le déploiement de ces trucs-là se tarisse. Et c'est d'autant plus possible qu'il peut y avoir un effet étonnant dû au marché. Aujourd'hui, les tarifs garantis financent un delta entre le prix de marché, la différence entre le prix de marché et le coût de production. Si on a une économie déprimée, les prix de marché devraient logiquement baisser. Et donc, la quantité d'argent nécessaire au soutien financier devrait à ce moment-là augmenter. Donc, si les prix de marché deviennent durablement bas, parce que l'économie en a pris un grand coup dans le nez, eh bien, donc on peut très bien avoir un enchaînement, hein. Moins de pétrole, du coup l'économie souffre, ou coronavirus, du coup l'économie souffre, et du coup derrière, la demande électrique baisse, et à ce moment, les prix de l'électricité deviennent durablement bas, et donc paradoxalement, comme pour le moment les ENR sont toujours prioritaires sur le réseau, la quantité d'argent public qu'il faut pour soutenir cette filière augmente. Voilà, ça sera intéressant de regarder ce qui va se passer dans ce domaine-là dans les mois et les années qui viennent. Alors, dans les questions corollaires, toujours sur le pétrole, il y avait une question qui était pourquoi est-ce que les dirigeants européens ne sont pas plus inquiets que cela face aux futures difficultés d'approvisionnement en pétrole? Ça rejoint une autre question qu'on m'avait posée une fois, qui est pourquoi est-ce qu'on peut manquer de pétrole et ne pas voir dans le prix? La réponse, en fait, c'est la même réponse aux deux questions. C'est tout simplement que comme il n'y a pas d'élasticité long terme entre le pétrole et son prix, entre la quantité de pétrole disponible et son prix, et que les dirigeants ne surveillent que le prix, en fait, ils pensent que tant que le prix est bas, c'est qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement. Ils ne comprennent pas qu'un prix bas peut signifier qu'on a eu un problème d'approvisionnement avant et que ça a cassé l'économie. Ils ne comprennent pas ça. De même que quand on se dit si le pétrole coûte pas cher à la pompe, c'est qu'il y en a assez pour tout le monde. En fait, quand on se dit ça, on ne comprend pas qu'un défaut de pétrole a déjà pu casser l'économie et à ce moment, il y a juste moins de gens qui ont les moyens de rouler en voiture. Et donc, c'est normal qu'à la pompe, le pétrole ne vaille pas plus cher parce que l'offre a changé, mais la demande a changé aussi. Donc les gens en Europe, ils sont intimement persuadés que les marchés étant parfaits, si on doit manquer de pétrole, le prix augmente indéfiniment, et tant que le prix n'augmente pas indéfiniment, c'est qu'on manque pas de pétrole. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont pas inquiets.